Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec les bagnards de la critique que j'ai nommé Xavier et le Harper de 7e Obsession, Michel Simon ou Michael Simon, comme vous voulez, de Positif, Pierre Murat, Pierrot de Télérama, Eric Neuf du Figaro, bagnard évidemment parce qu'on parle ce soir de Papillon de Michael Noer, mais également de Mission Impossible 6, du Poirier Sauvage, des films de David Robert Mitchell, Robin Gavras, de Marie Shelley, et puis à la demande de Xavier, eh bien la suite que vous attendez tous de Neuilly, sa mère, et qui s'appelle donc Neuilly, sa mère, en attendant Neuilly, sa mère, qui sera l'année prochaine. Dans le courrier de la semaine à propos du nouveau, justement, Mission Impossible dont on va parler, Pierre Cusor nous confie, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, je ne peux pas dire que j'ai tout compris. Tom Cruise cascade mieux qu'il n'est comédien. La musique est toujours aussi bandante. Les étrangers qui vont venir visiter Paris vont perdre beaucoup de temps à rechercher le canal Saint-Martin près de l'Étoile et l'opéra près de la Tour Eiffel.
C'est pas faux.
Voilà, sinon l'abondance d'explosions et de tirs à la mitraillette est presque pornographique dans ce film. Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, alors ça c'est d'un chic absolu, qui nous écrit de l'île de Bali, où il a vu Mission Impossible sous-titrée en indonésien. Ça
change tout.
Total respect. Hein.
Oui, ah oui.
De l'action sans ennui pour un film qui dure presque 2h30. Ce qui m'a gêné, c'est le discours messianique de fin en voix off, lorsque on sait les accointances de l'acteur avec l'église de Scientologie. Cela m'a dérangé. À propos de Rouler jeunesse de Julien Guetta, Adrien, 8 ans, partage mon propre scepticisme, mon masque, ma plume. Mais dites-moi que vous plaisantiez sur Rouler jeunesse. C'est pas Dieu possible que vous ayez aimé ça. Quand vous parlez d'Éric Judor, on croirait que vous parlez de Laurence Olivier. Si c'est ça le comédien français 2.0, je me fais immédiatement réac et je crée C'était mieux avant magazine. Sinon, les colères continuent de pleuvoir tout l'été à propos de D'un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, Claude de Sannois, comme aurait pu dire notre cher Boris, ce film n'est pas nul, il est nullissime, avec une Vanessa Paradis encore plus mauvaise que d'habitude. J'ai commencé la séance à 7 personnes et je l'ai fini seul. Bruno Gouriou, je suis atterré par vos propos élogieux. Comme l'a si bien résumé Eric Neuf, Un couteau dans le cœur est le plus mauvais film que j'ai pu voir depuis de nombreuses années. Alors là, à la suite, demandez à vos enfants de boucher leurs oreilles. C'est un étron cinématographique pour critiques ayant des goûts de chiottes. Bonsoir Xavier. Et Adrien Kasparov, la vérité, c'est que c'est la publicité idéale pour la mort de ce qu'on appelle l'exception culturelle française, qui parfois mène au pire. Et Un couteau dans le cœur le prouve. Seul Arnaud Sanquer juge que ce couteau dans le cœur, c'est comme un morceau de Marie Laforêt, un truc un peu suranné qu'on écoute
bien, ouais,
avec un soupçon de culpabilité, mais qui nous transporte, nous émeut malgré nous. Et puis Bruno Poulazette de Paris remercie le masque d'avoir si chaudement recommandé The Guilty, enfin à part Xavier, de Gustav Möller. S'il n'y avait qu'un film à voir de tout l'été, ce serait celui-là. Tour de force d'écriture, de jeu, de montage, bref, de mise en scène. Franck Bréant de Joigny dans Lyon nous dit « The Guilty s'écoute autant qu'il se regarde avec la ténébreuse sensation que la mort rôde à chaque appel déportable de Copenhague ». En revanche, pour Patrice Leformal de Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan, certes tout ceci est rondement mené, grande influence des séries télé 24 heures chrono, mais comme Xavier, je suis sorti un peu comme une ardoise magique ou 15 minutes plus tard, j'avais quasiment tout oublié, jusqu'au numéro d'appel d'urgence de la police danoise, comment dit-on pchit en copenhaguois. Et enfin, quelques reproches pour Xavier à propos de ce film, The Guilty. Elsa Barrère, cher Xavier, vous m'avez gâché le plaisir du film, car je n'ai cessé de me dire pendant 90 minutes, mais en fait, la petite fille n'en est pas une. Quand l'intention est de surprendre le spectateur, c'est quand même très louable. Donc, laissez-les faire, merci. Même sentiment de Philippe Couteillas.
À condition qu'il le fasse bien.
Monsieur Jérôme, pourriez-vous demander à monsieur Xavier de ne plus dévoiler la fin des films, même partiellement?
Mais... Ah, bah, c'est plus moi.
Ayant vu The Guilty, après avoir écouté votre émission, je n'ai pu m'empêcher de repérer le fameux indice. Et j'ai passé une bonne partie de mon temps à chercher les éléments qui pouvaient le confirmer ou l'infirmer.
On devrait me remercier.
Cela ne m'a pas empêché, bien sûr, de trouver ce film excellent, mais ça m'a gâché toute une partie du spectacle.
Xavier, et ben moi, c'est le metteur en scène, par sa maladresse, qui m'a gâché le film. Donc je suis désolé, un partout.
Qu'est-ce que tu avais dit déjà?
Non, je suis très content que ça tombe sur toi.
Il y en a plein qui l'ont pas vu. Non, mais c'est vrai en plus. Il y en a plein qui l'ont pas encore vu, donc tu vas pas recommencer ce soir.
Ah, mais je n'ai rien affirmé. J'ai juste dit qu'il y a un moment, il y avait une maladresse de scénario qui laissait envisager.
Bon, comme ça me fait plaisir ce que tu dis. J'ai toujours dit ça. Je n'ai rien dit.
On est une émission de critique ou une émission de bande-annonce? Et en plus, dans les bandes-annonces, il y a généralement la solution.
Sorti le 1er août avec un succès qui ne se dément pas, 1,2 million la première semaine. Je crois qu'on approche là.
1,8 million, si 1,8 million, tu parles de Mission Impossible 6.
C'est évidemment le sixième épisode de Mission Impossible Fallout, un film de 2h17, signé Christopher McQuarrie avec l'immarcessible Tom Cruise. 56 ans, tous ses muscles, alias Ethan Hunt, ainsi que son alter ego féminine, l'agente britannique Rebecca Ferguson. Mission Impossible que je ne vais pas vous résumer, mais qui passe par Paris, donc ça c'est le plus important, avec atterrissage sur le dôme du Grand Palais. Course-poursuite à moto et à contresens, ça je ne le ferai pas, de la place de l'Étoile, sans compter de brèves haltes à Bercy ou au Palais Royal, via l'Opéra et Trocadéro. C'est vrai que quand on regarde le film dans la continuité, je ne suis pas sûr que, même avec un bon plan de la capitale, on puisse s'y retrouver.
Ah ben, on passe de Pont-Marie à la statue de Jeanne d'Arc quand même en moins de 3 secondes.
Oui, c'est sûr que non.
C'est très rare.
C'est absolument, c'est plus rapidement que Jean-Marie Le Pen hein, quand il fait ce chemin-là.
Allez. Je ne sais pas, je ne le suis pas, mais je suis ravi de savoir que tu es parti.
Rapidement, qu'en pensez-vous? Allez, Xavier.
C'est exactement ce pour lequel on va voir le film, c'est-à-dire que c'est de la cascade, c'est époustouflant, c'est virtuose, il repousse les limites. On n'est plus du tout dans Mission Impossible, qui n'était pas une série à poursuite, qui était une série paranoïaque, qui était une série anxiogène, où on recréait autour des méchants des situations qui poussaient justement, qui favorisaient leur faiblesse, soit la paranoïa, soit l'égocentrisme. On retrouve 2-3 traces d'ailleurs de cela dans le film, à un moment où ils piègent les méchants uniquement en réinventant une réalité virtuelle autour d'eux. Donc,
Il y a 3 bombes de plutonium, tout de même.
Il y a une ouverture qui est complètement en hommage à la série, c'est-à-dire qu'on a un vieux système.
L'ouverture comme
extrêmement réussie. I'm the Storm, comme dit Ethan Hunt, je suis la tempête. Effectivement, elle va se déchaîner, elle va se déclencher. Le méchant est extrêmement réussi. Le problème, c'est qu'il y a un autre méchant et que le scénario... Alors, on va quand même dire, il gâche tout, il est méchant, il aime personne. Mais je suis désolé, le scénario ne prend pas en considération le fait qu'on devine tout de suite qui est le traître. Et ça pourrait être beaucoup plus intéressant de travailler là-dessus. Non, me dis pas que tu l'avais pas vu, t'as dormi, c'est pas possible.
Mais je suis candide, moi.
Bah, tu es très très candide.
Tu l'avais pas vu, ça?
Non.
Bon, moi aussi, on le devine. Ah, attends, il y a des poteaux indicateurs au bout de 3 secondes, quand même.
Non, bien sûr,
I am the bad guy. C'est dommage que le scénario exploite pas ça. Ceci mis à part, la partie parisienne est un peu longue. On aimerait bien qu'Alexandre Benalla intervienne pour raccourcir tout ça. Parce que, n'empêche que Tom Cruise, il la ramène. Mais face à Alexandre Benalla, il n'aurait pas fait long feu.
Cela dit, il est encore en forme.
Ah, il est encore en forme pour son âge. Oui, ça, on est bien.
Moi, j'ai peut-être allé m'inscrire à Scientologie parce qu'il y a encore du...
Le truc absolument jouissif, improbable, c'est la fin que je ne vais pas raconter, mais qui est un bonheur absolu. Mais vraiment de n'importe quoi, de surenchère.
En effet, vous aviez raison. Moi, j'y allais pour voir des cascades à l'ancienne, parce qu'il n'y a pas de... Ce qui me plaît...
Là, il y a des cascades.
Il y a plein de cascades, mais il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas un truc...
Non, ils sautent vraiment, ils plongent
voilà.
vraiment.
Non, mais je veux dire que c'est du James Bond. C'est du James Bond puissance 10. Et je trouve que les séquences à Paris... Alors évidemment, à part le côté géographique un tout petit peu hésitant, mais c'est très, 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 très plaisant. La partie Londres est très bien. C'est à la fin que ça se gâte dans la troisième partie qui est au, je sais plus où ça se situe.
Au Yémen.
Au Cachemire. Ça, c'est un tout petit peu. Oui, oh, c'est loin, quoi. Ouais. C'est loin.
Il nous raconte la fin, mais c'est pas la bonne.
La poursuite d'hélicoptère est géniale quand même.
Oui, pas trop. Moi, au bout d'un certain temps, ça commence à lasser. Mais en revanche, quand Tom Cruise sauve la petite fliquette parisienne en tuant 3-4 méchants.
Il lui dit,
ça va aller en français. Alors moi, je fonds.
C'est ton côté Benalla, ça.
Je trouve que c'est vraiment, on a pour son argent et c'est très bien. Ce que je conseille aussi, c'est d'aller voir en 3 minutes la parodie qu'on a faite Nicolas Canteloup il y a quelques semaines. C'est absolument génial. Ça dure 1 minute et demie où on voit Tom Cruise qui pleure à gros sanglots devant ses chefs en disant, mais je ne peux pas sauver le monde. On ne peut pas rouler dans Paris. Et il y a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui arrive en disant, les Parisiens et les Parisiennes n'aiment pas la voiture. Ça dure 1 minute et quart. C'est absolument hilarant, je vous le conseille.
Éric,
c'est très bien, mais le film est un peu comme le message du début. Ça s'autodétruit 5 secondes après la sortie de la salle. On a tout oublié, c'est l'ardoise magique. C'est exactement le même film.
Non, les cascades, on s'en souvient, je trouve.
Oui, mais elles sont longuettes quand même, souvent.
Oui,
l'hélicoptère, on aurait aimé.
J'aimerais t'y voir.
Non, mais tu m'y as vu parce que Tom Cruise fait ses cascades lui-même. Mais nous aussi, on va nous-mêmes voir un tas de films qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est très dangereux. Et effectivement, le GPS est un peu détraqué là, dans Paris parce qu'il part dans tous les sens. Mais le méchant et la méchante, c'est très bien. C'est la fille qui joue la princesse Margaret dans The Crown. Elle est épatante. Et c'est le film qui remplit. Il faut sauver la planète. Il y a une bombe qui va exploser. On sait qu'à la fin, Ethan Hunt va gagner. Et c'est très bien. Il faut le voir en VO pour effectivement l'entendre dire à la policière blessée « ça va » en français.
Ça va.
Et juste à côté de l'immeuble où on a tourné Le Dernier Tango, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet.
Il n'y a pas de marchand de beurre. Michel.
Oui. Je trouve que notre présence est presque inutile pour parler de ce film, parce que les gens qui aiment, et moi-même j'aime les cascades, donc le contrat est rempli. Cela dit, on revient à 1908, c'est-à-dire c'est du cinéma de 1908, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le cliffhanger, c'est-à-dire on est suspendu au bord d'une falaise, et ce qui va tomber. Alors, il y a des films qui jouent sur l'intelligence, d'autres sur l'émotion, les meilleurs sur l'intelligence et l'émotion. Là, il n'y a ni intelligence ni émotion. Et effectivement, on prend du plaisir à voir les hélicoptères, les chutes, etc. Tout cela est très bien. Mais c'est Mankiewicz qui un jour disait, avant il y a des films à 2 dimensions, il y en a même qui étaient sans dimension du tout. Là, on est exactement dans ce genre de cinéma qui remplit encore une fois son contrat. Donc allez-y, ceux qui aiment ce genre de choses ne seront pas déçus. La seule chose qui m'inquiète,
c'est qu'il y a déjà 1,8 million alors.
Oui, mais bien sûr, mais c'est normal parce que il y a des moyens considérables, il y a un talentueux metteur en scène, il y a un acteur, comme tu dis, extrêmement physique et tout. Le problème avec ce film, c'est que tout de même, on se pose des questions, puisque le film d'espionnage, c'est tout de même l'intelligence par excellence. Le roman d'espionnage, il n'y a qu'à aller voir l'affaire Cicéron de Mankiewicz, John Le Carré, c'est prodigieux. Le film d'espionnage, c'est le reflet de notre époque. Or, ce film ne reflète rien du tout.
Bon, mission impossible. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public sur ce film ? Non. Papillon, qui est sorti ce mercredi 15 août, ça c'est assez rare, film qu'on n'avait pas pu voir en projection de presse avant. Papillon, le surnom, vous le savez, est le tatouage d'Henri Charrière, qui fut condamné dans les années 30 par la justice française au bagne à perpète pour un meurtre qu'il disait n'avoir pas commis et qui fut envoyé sur l'île du diable, d'où il n'eut de cesse de vouloir s'évader. Le livre de Charrière, en 69, fut un succès mondial, tout comme le film, quand ira Franklin Schaffner en 73 avec Steve McQueen en Papillon et Dustin Hoffman dans le rôle du forçat Louis Delga. Et voici donc le remake, signé du Danois Michael Noer, avec Charlie Hunnam dans le rôle titre et Rami Malek dans celui de Louis Delga. Nouvelle version tournée, je te le précise, puisque tu ne l'as pas vu, Michel, non pas en Guyane, mais au Monténégro, ce qui change tout, évidemment.
Ah oui. Pas au Cachemire.
Non, pas au Cachemire, ni au Yémen. Elle vaut quoi, cette version de 2h04? Alors, Pierre, je t'ai lu, t'es plutôt positif.
Je t'ai lu. Je sauve le film parce que, il y a quelque chose au départ qui est très mauvais, c'est la reconstitution de Paris. Paris des années, de l'année 30, qui est une catastrophe, on est d'accord. Et le petit problème, je commence par ce qui est mauvais, c'est que le metteur en scène n'est pas très doué, lui, contrairement au précédent pour Mission Impossible, pour filmer les scènes d'action. C'est-à-dire que les scènes d'action, il met sa caméra là, et il croit malin de faire des plan très court et très comme ça pour montrer le désordre. Alors finalement, personne n'y comprend rien. On ne sait pas qui tape qui, on ne sait pas qui est où, etc. La seule chose que je trouve,
c'est à partir de Charlie Hunnam.
Alors oui, d'une part, et d'autre part, je trouve que à partir du moment où Papillon est à l'isolement pendant quelque temps, il me semble que ce qui intéresse le réalisateur, c'est ça, c'est de montrer une sorte de parcours intérieur du type qui découvre, lui qui était une sorte de petit malfrat sans grande envergure, un peu de dignité, d'honneur, enfin toutes les valeurs, et il apprend ça. Et je trouve que là, il y a un film qui se passe et qui est plutôt réussi. En plus, je trouve que Charlie Hunnam, qu'on avait vu notamment dans le film de James Gray, The Last City of Z, c'est un acteur physique, il est intense, et il me fait presque oublier Steve McQueen, qui n'était pas très bon dans la première version. J'ai une admiration sans borne pour Steve McQueen, mais dans Papillon, il n'était pas très très bon.
Comment tu peux dire ça?
Non. Et là, il est meilleur. Vraiment, je trouve qu'il est objectivement, il est meilleur. Mais ça reste... j'y allais tellement en disant ça va être une catastrophe que peut-être que c'est ça qui m'a un petit peu...
T'as été déçu en bien.
J'ai été déçu en bien.
Eric.
C'est un film parfaitement inutile. Déjà, le premier n'était pas un chef-d'œuvre, mais au moins, il y avait Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et là, dès le début, là, la reconstitution de Paris, c'est encore pire que le Moulin Rouge de Baz Luhrmann. On n'y voit rien. On a l'impression d'être dans une banlieue de Bucarest avec des tramways.
C'était tombé au bon ténébro, je te dis.
Il y a le Moulin Rouge cinéma, qui n'a jamais existé.
J'ai eu la même réflexion.
Alors, il y a des serveuses au sein nu dans ces bars, on se croirait dans...
On va plein toi.
Chez Hugh Hefner. C'est fantastique. Puis tout d'un coup, paf, la Guyane. Mais moi, ce qui est sidérant, c'est pourquoi est-ce qu'on tourne à nouveau Papillon qui n'intéresse plus personne? C'est complètement démodé, le livre.
Ah si, le sujet était passionnant.
Passionnant, c'est l'histoire d'un type qui veut s'évader et qui s'évade. Alors,
ça y est, raconte la fin pour ceux qui n'ont pas vu.
Papillon.
Oh non.
Et on ne le voit pas écrire un livre, heureusement, ce sera dans la suite peut-être. Et il y a surtout un grave défaut, c'est qu'il manque la séquence clé du film précédent, c'est la recette de la soupe au cafard par Steve McQueen dans sa cellule qui est affamé et qui se prenait pour Raymond Oliver. Et là, c'était un moment de bonheur. Et là, on reste sur sa fin.
Michel, donc tu ne l'as pas vu, Xavier ?
Oui, effectivement, c'est inutile. En plus, c'est vraiment un remake. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on avait à nouveau adapté.
C'est l'exact remake.
Ah, mais c'est l'exact remake, parce qu'on reprit le scénario de Dalton Trumbo. J'ai vu ça au générique. Donc, je me suis dit, zéro ambition. Ça aurait pu être un peu plus moderne, un peu plus contemporain, un peu plus sale. C'est pas très sale comme... Normalement, ils compissent quand même dans leurs excréments. C'est relativement
Le Schaffner était assez sale,
Mais Schaffner est un bon metteur en scène pour ce genre de film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait filmer le côté anxiogène, le côté refermé sur lui-même. C'était pas un grand film, on est d'accord. Mais il savait au moins faire ça. Là, il n'y a pas une idée, c'est toujours joli. Il n'y a pas l'ombre d'un danger quand ils sont perdus tous les quatre au milieu, sur le radeau de la Méduse au milieu de la mer. On ne croit pas un instant qu'ils sont paumés. Les acteurs sont pas très bons. Dunan, il est joli à regarder, on se souvient de lui dans Queer as Folk. Effectivement, il y a deux, trois moments, mais c'est quand même le chef maquilleur qui remporte la palme, qui lui donne quelques rides. Et Rami Malek, que j'adore dans la série Mister Robot, alors lui, il n'ose pas du tout aller sur les plates-bandes de Dustin Hoffman, il est prudent, il fait tout pareil, et il n'impose aucune personnalité.
Même ses lunettes jouent mal.
Mais le problème, c'est qu'on, non seulement on connaît la fin, mais on ne ressent aucune forme d'anxiété ou d'angoisse pour eux, et c'est quand même dommage.
Je rappelle qu'encore une fois, on n'a pas eu le droit de le voir avant sa sortie en salle. C'est toujours mauvais signe quand on peut
mais
même
pas
gentil. Souvent.
C'était gentil.
Oui, mais c'était sans compter sur Jérôme Garcin.
Papillon, pas de réaction, j'imagine, sur ce film. 4 ans après Wintersleep, qui lui valut la Palme d'Or, voici donc Le Poirier sauvage, le 8e film du Turc Nuri Bilge Ceylan, qui était en compétition à Cannes et qui est cette fois reparti bredouille. Il faut dire qu'il était présenté à la toute fin du festival, ce qui peut aussi expliquer qu'il soit passé à travers les mailles du filet. Bref, un film de plus de 3 heures qui se déroule à nouveau en Anatolie et s'apparente à un roman d'apprentissage. Le jeune héros Sinan revient dans son village natal, il est fou de littérature, il se destine à être écrivain, il est en quête d'un éditeur mais à compte d'auteur pour son essai qui s'intitule justement « Le poirier sauvage ». Mais ce n'est pas auprès de son père qu'il va trouver l'argent. Le père est un stit, il est perclus de dettes. Il joue ses maigres économies au jeu et il tente de percer un puits sans eau. Ce qui fait que Sinan en vient à douter de son destin littéraire. En chemin, il rencontre un amour de jeunesse, un écrivain à succès, deux jeunes imams. Comme dans Winter's Sleep, les images sont absolument superbes. Le rythme des saisons est lent. Les dialogues peuvent durer jusqu'à 20 à 25 minutes. Et l'atmosphère est tchékovienne, mais dans le bon sens du terme, qui était déjà d'ailleurs le cas de Winter's Sleep. Michel.
Oui, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est le plus grand film, pas seulement de cette quinzaine, mais un des plus grands films de l'année. C'est un film qui combine beaucoup de choses à la fois, ce qui était très difficile. D'abord, c'est une fresque sociale, c'est une sorte de vision panoramique de la Turquie d'aujourd'hui à travers un certain nombre de personnages que ce jeune garçon qui veut devenir romancier rencontre sur son chemin. Il est assez arrogant, il est un peu donneur de leçons.
Plutôt essayiste que romancier.
Mais bon. Et c'est en même temps une fresque familiale. C'est des rapports, effectivement, comme tu l'as dit, avec sa mère, avec son père, qui est joueur, qui a ruiné sa famille, etc. Deuxièmement, c'est également un film qui est très littéraire dans la mesure où les dialogues sont extraordinaires. Il y a des confrontations, par exemple, entre le romancier connu qui le reçoit chez lui, etc. Et il y a un travelling, il se lève, il le reçoit dans son bureau, ils vont jusque sur le pont. Il y a un dialogue, comme dans Winter's Sleep, éblouissant. Donc c'est très littéraire et en même temps c'est très cinématographique parce qu'il y a un sens.
Il faut dire aussi que ce jeune héros est très éloquent.
Très éloquent, il est revendicateur, etc. C'est peut-être un autoportrait du jeune Ceylan, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très personnel. Et en même temps, c'est visuellement extraordinaire. Alors, la lenteur, moi, ça ne me gêne pas. Julien Gras, je crois que c'est dans Lettrine, il disait que les grands romans fournissaient des pilules de lenteur. Et ce film fait penser à un très grand roman, un roman de Stendhal, un roman de Tolstoï, des pilules de lenteur. Le problème n'est pas la lenteur ou la rapidité, le problème c'est le rythme. Soit un film a le sens du rythme et il peut être lent et nous combler de bonheur, ou il peut être rapide et il peut aussi nous combler de bonheur. Mais 3 heures, c'est Le Parrain, c'est 3 heures, Barry Lyndon, c'est 3 heures, il y a des films de 4 heures, sublimes. Le problème n'est pas la longueur du film, c'est le fait qu'on est complètement fasciné par ce film.
Je pense
que
cela dit, ça a un peu rebuté les spectateurs cet été.
Est dans une époque aussi où aussi dès qu'on dit 3 heures, les gens disent mais le nombre de très grands films qui font 3 heures.
Je suis d'accord, j'essaie d'expliquer pourquoi le public a laissé de côté.
C'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands cinéastes au monde, et ce film est un chef-d'œuvre. Que le jury qui a de la purée dans les yeux n'ait rien vu, dans la prochaine émission, vous allez parler de Burning, qui est un autre chef-d'œuvre, un film
totalement
coréen sublime, que ce jury incompétent, je pèse mes mots, incompétent, ait pratiquement raté tous les grands films du festival. C'est pas la faute à Nuri Bilge Ceylan ou à Lee Jang-dong.
Éric.
Ce qu'il y a de bien avec les films de Ceylan, c'est que je ne risque pas d'imiter Xavier ou Pierre et de raconter la fin parce que je ne reste jamais jusqu'au bout. Mais je les vois toujours 2 fois.
Je comprends pas. Tu les vois 2 fois, mais tu restes pas jusqu'au bout.
Puisque tout le monde dit que c'est un génie forcené, je me dis, je dois me tromper. Et ce qui est bien, c'est le suspense. Pour moi, c'est je ne pars jamais au même moment du film. Alors c'est ça qui m'amuse. À Cannes, j'étais parti après les discours des deux imams. Et là, je suis parti un petit peu avant, quand le père essaye de réparer la porte d'une grange qui est sortie de ses gonds, ce qui était un peu mon cas, d'ailleurs. Et non, mais là, il y a tout le temps le mot « génie » qui clignote sur l'écran. C'est quand même terrible, là.
Parce que c'est pas un film qui joue au génie du tout. C'est un film, comme disait Jérôme, tchékovien.
Chez Tchékov, il y a une légèreté. Là, le problème, c'est pas la longueur, c'est la durée du film. D'habitude, c'est magnifique et silencieux. Et là, c'est bavard à mort et pas très beau, j'ai trouvé, contrairement à ce qui se passe de coutume chez lui.
Mais Winter's Sleep était très bavard. Il y avait des conversations.
Mais c'est un film terriblement programmatique. C'est ce héros. Déjà, prendre un personnage d'écrivain, c'est assommant. Le type est antipathique. C'est un raseur de première bourre. Et bla, il parle tout le temps. Et il rencontre un tas de gens. Là, il y a des blocs juxtaposés. Alors, il y a son père qui a un rire crispant, mais qui finalement est le type le plus sympathique parce qu'il est obligé de rester dans ce film pendant 3h30. Il y a un fonctionnaire parce qu'il a tellement de talent. Visiblement, il a écrit 1000 pages que personne ne veut lire. Il ne trouve pas d'éditeur. Alors, il voudrait être subventionné. Là, on a 10 minutes de blabla supplémentaire. Ensuite, il va voir un type qui s'est reconverti dans le commerce de grains ou de je ne sais plus quoi. Il voit une ex-petite amie qui va se marier. Alors là, mais ce serait pas Ceylan qui aurait filmé ça. La fille, ses cheveux se dénouent, volent au vent dans des ralentis. Le soleil brille à travers les feuillages. Mais c'est Hollywood. Non, il n'y a pas un ralenti. J'invente là. Mais
Le
feuillage avec le soleil qui tremblote, mais c'est Hollywood.
Tu n'es pas Woody Allen, parce que Woody Allen, il a vu 2001. Il a dit la première fois, je me suis ennuyé à mourir. La deuxième fois, j'ai pensé que c'était un des plus grands films que j'ai jamais vu.
J'irai voir une troisième.
Avec toi, ça marche pas. Tu reviens. Tu récidives, c'est pire.
Oui, non, mais je persiste, mais je suis désolé, mais je trouve le film d'un ennui, d'une prétention, d'un vide sidéral, parce que les discours de ce type sont absolument pas intéressants. Et c'est bien parce qu'on peut partir à n'importe quel moment, parce qu'il y a une telle arborescence d'ennui dans ces films.
Bon, on va te mettre au jury l'année prochaine. On va te mettre au jury, t'as un tel jugement que tu seras très bien.
Une question, tu n'es, même pour Winter Sleep, tu n'es pas resté jusqu'au bout?
Je crains que si, une des fois. Mais je m'en souviens plus. D'ailleurs, c'était déjà un personnage d'écrivain, si mes souvenirs sont bons.
Bon,
hôtelier, écrivain.
Acteur.
Acteur, mais pardon.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Michel. C'est un film que je n'ai pas eu la chance de voir à Paris. Donc, je ne l'ai vu qu'à Cannes. Le tout dernier jour, effectivement, au bout de... C'était le quatrième film de la journée, 3 heures. Je comprends mes petits camarades qui ont hésité, qui sont allés faire autre chose, qui se sont dit qu'ils le verraient à Paris, parce qu'on était un peu épuisés. Moi, j'avais vu Nadine Labaki dans la journée, donc j'avais quand même été largement éprouvé, par la médiocrité ambiante. Et je suis rentré dans le film au bout de 3 secondes. L'excuse ne tient pas. Je suis désolé si le jury l'a loupé. Je suis d'accord avec Michel. C'est qu'il y a un vrai problème de réception des films. C'est une merveille. J'étais épuisé comme tout le monde. On avait 10 jours de festival dans les pattes. Certains très mauvais films. Et ce film m'a lavé les yeux, m'a entouré comme ça d'une beauté, d'une intelligence. Je suis désolé. Les dialogues, c'est pas du blabla. Ils ont toujours une finalité. Ils ont toujours un sens. Ils ont toujours une lucidité sur ce qu'est la Turquie. J'adore Nuri Bilge Ceylan, mais jusque-là, on pouvait effectivement lui faire le reproche d'avancer un tout petit peu. Attention, je suis le grand cinéaste turc. Je trouve presque le film modeste pour une fois, dans sa fluidité, dans sa manière de mettre en scène. Je le trouve passionnant. C'est quand même l'histoire d'un intellectuel qui, effectivement, il y a son histoire avec la famille, il y a l'histoire avec la religion sur la Turquie contemporaine. C'est extrêmement osé, c'est extrêmement audacieux. Je suis pas sûr qu'Erdogan aime beaucoup le film, mais c'est quand même une histoire d'un intellectuel qui essaie d'être à la fois enseignant et écrivain, et qui s'apprête aussi à devenir milicien, c'est-à-dire à taper sur ses copains, sur son propre camp, pour pouvoir simplement bouffer.
Parce qu'il faut expliquer que quand il croit plus à son destin littéraire, il veut s'engager dans la police anti-émeute.
Il a un copain qui
est... Il y a un copain qui est...
Voilà. Et c'est le seul moyen de gagner sa vie. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, parce que son père le dilapide, que sa mère lui dit, mais effectivement, malgré les défauts de ton père, je le réépouserai à nouveau parce que je l'ai aimé par amour. Et ça vient juste après la scène où, effectivement, la jeune fille libre qui enlève son voile et qui met les cheveux au vent dit que non, finalement, elle s'est résolue à épouser un type qui la rendra riche mais malheureuse. Donc c'est absolument bouleversant de se dire que la génération précédente s'est mariée par amour et que la génération actuelle, lucide, consent néanmoins au mariage arrangé. Enfin, je trouve qu'il y a une complexité, une diversité. Il y a de l'onirisme. C'est pas un film constamment réaliste. Le personnage rêve à certains moments, invente.
Ah, c'est encore pire.
Mais c'est absolument super. C'est
magnifique.
C'est super. Non, c'est un immense film.
Claire. Ben voilà, tout a été dit, c'est absolument splendide. Alors moi je voudrais juste revenir sur le fait qu'il n'est pas sympathique. Mais Julien Sorel n'est pas non plus un personnage extrêmement sympathique.
Pourquoi les héros devraient
être... Non, mais pourquoi il devrait être sympathique? En effet, c'est un apprentissage.
Sorel n'est pas antipathique non plus.
Non. Il est ambitieux. Non,
il parle moins.
Mais il a côté adolescent, il est arrogant.
Mais c'est ça, c'est le problème. C'est un jeune homme qui cherche sa voie dans une Turquie où il ne peut pas l'être, puisqu'on ne veut pas qu'il soit écrivain. Et je trouve que c'est absolument formidable, la séquence avec la jeune femme qui dit simplement, alors ça c'est une séquence absolument tchékovienne, où elle lui dit simplement que tout était possible, on croyait que la vie était possible, et bien elle est loin maintenant et elle s'en va, on ne la voit plus, tout est comme ça. Et
oui, mais Tchékov disait, la brièveté est sœur du talent. Alors, 3h30.
Eh ben, je m'en fous parce
Shakespeare
que...
Shakespeare a fait des tragédies un peu longues.
Mais qu'est-ce qu'il pensait de Tolstoï?
Qui est absolument magnifique, c'est sur la Turquie, mais sur notre société aussi. C'est-à-dire que, eh bien, on arrive, le personnage du père, il est absolument formidable parce que, bon, il ricane, personne ne l'aime parce qu'il dilapide l'argent et tout. Et ce qui est tragique, c'est qu'on s'aperçoit au bout de ces 3 heures qui te paraissent si longues, eh bien, on s'aperçoit que c'est la seule façon de survivre dans un pays ou dans une société telle qu'elle est devenue, c'est d'être comme ce père, c'est-à-dire contre le système. Et le fils va devenir comme lui. Enfin, c'est à la fois un film romanesque, cinématographique, avec des plans-séquences, mais à peine visibles. C'est absolument sensationnel.
C'est politique, c'est social, c'est passionnant.
C'est passionnant.
Le poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan. Oui, une réaction. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Moi, du coup, j'ai vu le film hier, justement. J'étais pas très bien chez moi et je voulais aller le voir en me disant ça va être long, tu vas en avoir pour ton argent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé pour tous les auditeurs qui sont pères, qui sont fils, qui soient filles ou qui soient mères. C'est quelque chose où on apprend qu'est-ce que c'est la famille, on comprend. Il y a plein de choses qui se passent et moi qui ai eu à construire un mur dans un jardin avec mon père et qui comme lui n'a pas voulu le faire, l'acteur n'a pas voulu construire le puits Et ce qu'il va le faire ou pas, eh ben, c'était, je me suis retrouvé exactement là-dedans, dans le jeune qui questionne le monde, qui se prend des claques. Et tout ça, et c'était vraiment un film magnifique. Voilà. Merci.
Merci pour votre intervention. D'autres réactions? Non. Aussi enthousiastes? Non. Grand moment de solitude, hein, Eric, enfin dans la vie. Hein.
J'attends le courrier.
En sélection officielle à Cannes cette année, il y avait aussi Under the Silver Lake, le troisième film de l'Américain David Robert Mitchell avec Andrew Garfield et Raila Keo, un polar de 2h20, quasiment un court-métrage, hein, qui se passe à Los Angeles où Sam, c'est Andrew Garfield, une sorte de dilettante de 33 ans, tombe amoureux d'une jeune blonde fatale au sein nu, sa voisine Sarah, et c'est Riley Keo, une sorte de sous-Marilyn qui voudrait être actrice, et qui disparaît. Et là, Sam devient un détective un peu improbable, très parano, qui enquête en t-shirt, bien sûr, t-shirt rouge, ce qui fait qu'il est très reconnaissable dans la Cité des Anges. Enquête assez surréaliste, dopé au stupéfiant, il cherche des signes un peu partout, dans les soirées hype, dans les paroles des chansons, et même dans les boîtes de cornflakes, avec évidemment plein de clins d'œil, puisqu'on est dans la ville du cinéma, à ses prédécesseurs, et ça va du Privé à Fenêtre sur cour, et de Hitchcock à Lynch, donc... C'est une sorte d'exercice de style avoué. Xavier, qu'en as-tu pensé ?
La question, c'est est-ce qu'on peut recommander un film qui nous a déconcertés, auquel on n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais qui en même temps a témoigné pendant 2h20 d'une envie de faire du cinéma, vraiment, de créer des choses avec l'image, avec le son, avec la distorsion du réel. Donc je ne suis pas convaincu d'être fou du film, mais je le recommande pleinement parce que je trouve qu'on manque de films de cette audace-là. Évidemment, on a tous pensé à Mulholland Drive de David Lynch. Moi, j'ai pensé aussi au Privé de Robert Altman. Ouais. C'est-à-dire des films qui savent tourner Los Angeles, qui savent tourner cette topographie très particulière, cet endroit où les mythes deviennent des légendes, les légendes deviennent des réalités, où il y a des morts, où il y a des opiacés, il y a plein de mystères. C'est une ville qui a presque moins de personnalité que New York, mais certains cinéastes ont vraiment lui trouvé son ADN très particulier. Même Jacques Demy l'avait fait dans Model Shop, par exemple. C'est une ville où tout peut arriver, c'est une ville labyrinthique, c'est une ville étrange, c'est une ville où l'initiation, elle est constante. Et je trouve que le film crée constamment quelque chose de stupéfiant dans tous les sens du terme. Effectivement, on y prend beaucoup de drogue, on n'est pas sûr que ce que l'on voit soit vraiment la réalité. Mais c'est un film qui m'envoûte, c'est un film qui m'intéresse, c'est un film qui de temps en temps met de côté, mais me rattrape. Je trouve que ce réalisateur, David Robert Mitchell, est passionnant.
Qui était un peu mis de côté à Cannes, j'ai l'impression.
Oui, malheureusement, parce que je trouve qu'il y a de la mise en scène, il y a de l'interprétation, il y a du scénario. Est-ce que le film dans l'état est complètement accompli? Peut-être pas, mais encore une fois, moi c'est un film qui me passionne, qui m'égare, qui m'envoûte, qui m'hypnotise, et on y cite Marilyn Monroe, on y pense au Dahlia Noir.
Les citations voilà. À chaque plan. Hein.
Mais tant mieux, parce que je préfère un cinéaste qui assume ses modèles et qui les avance comme ça et qui travaille là-dessus, plutôt que les petits merdeux qui disent « Ah mais j'ai tout inventé, le cinéma avant moi n'existait pas ». C'est pas le cas
tu
de David Robert Mitchell. Oh, bah, la liste est interminable. Gaspard Noé, par exemple.
on va en parler bientôt.
Mais voilà. C'est un type qui a commencé avec un film pratiquement rien sur un campus américain, qui a fait un film d'horreur à la Romero et qui fait là une sorte de rêve évanescent, passionnant. Je le recommande vraiment.
Michel,
je trouve que c'est un film assez poseur. Alors là, effectivement, les 2h20 me paraissent absolument superflus parce que je trouve que le début, le meilleur c'est le début, mais le début est totalement plagié sur le long goodbye d'Altman, sur le Privé, où Elliot Gould regardait des filles à côté et il les observait, il allait ensuite trouver de la nourriture pour son chat. D'abord, il y avait un humour permanent et puis il y avait surtout un grand narrateur. Ici, il n'y a pas de narration, il y a quelqu'un qui s'égare, à mon avis, dans ce grand labyrinthe cinéphilique qui est cette errance à travers Los Angeles, où il y a un côté pop art. C'est un film très, très mode, je trouve. Totalement mode et qui ne dit pas grand-chose. C'est aussi sur la paranoïa, sur les sectes. Mais tout cela est assez fumeux. Et finalement, je ne dis pas que l'homme est sans talent, mais en tout cas, je trouve que c'est un talent fourvoyé.
Eric ?
C'est pas inintéressant, toute cette folie référentielle, parce que c'est vraiment gavé de clins d'œil, de citations à chaque plan. Alors, c'est très bien d'aimer le cinéma, mais ce qui est mieux, c'est que le cinéma aime un metteur en scène. Et là, on regarde ça sans déplaisir, mais en se disant que c'est tellement artificiel presque chichiteux et très très vain. Et puis il y a un problème, il faut vraiment aimer cet acteur qui est d'un falot complet là, Andrew Garfield, même en t-shirt rouge, je crois qu'il joue un super-héros, peut-être qu'il est mieux dans je ne sais quel film, mais là on n'a pas envie, ça, c'est pas Elliot Gould dans Le Privé, et comme disait Michel, Le Privé était un film plein d'humour, là je suis pas sûr que ce soit si drôle que ça, et puis cette théorie du complot permanent, ça peut être rigolo 5 minutes, mais 2h20, je l'ai vu deux fois celui-là aussi.
C'est l'Amérique contemporaine, c'est,
hein, non, l'Amérique contemporaine.
Mais si, avec mais attends, tu l'as vu deux fois jusqu'au bout?
Oui.
Oh là là.
Mais ça ne dure que 2h20, c'est un court-métrage pour le Turc.
Pierre,
je suis d'accord avec Xavier sur l'idée qu'il aime filmer. Ça, c'est important qu'un réalisateur qui aime bien filmer. Le petit problème, c'est qu'au bout de 3 quarts d'heure, il filme plus grand-chose. Les 3 premiers quarts d'heure avec l'enquête, lorsqu'il suit, lorsque la fille disparaît. Alors en plus, moi, autant j'avais bien aimé Andrew Garfield dans le film de Scorsese, Silence. Là, je le trouve, mais alors, insupportable. Ah, ouais. C'est tous les tics du comédien américain qui surjoue, qui appuie. Bon, enfin, bon, ça serait pas grave s'il y avait pas une mise en scène un peu chichiteuse. Et alors, au bout de 3 quarts d'heure, il se passe, pour moi, en tout cas, plus rien. Et alors, quand on débarque sur les sectes, Alors là, c'est d'un ennui, d'une prétention.
Ah oui, le gourou est gratiné.
Ah, ce que c'est mauvais. Mais les 3 premiers quarts d'heure donnaient beaucoup d'espoir. Mais alors après, oulala.
Alors, c'est donc signé David Robert Mitchell et c'est Under the Silver Lake. Des réactions sur ce film? Non. On va parler assez rapidement de Marie Shelley, si vous êtes d'accord. Biopic de la femme du poète. Romantique Shelley, devenue à 18 ans la romancière de Frankenstein avec Ellie Fanning dans le rôle titre et Douglas Booth en Shelley. C'est aussi le deuxième long métrage de la première et unique réalisatrice d'Arabie Saoudite, Haifa Al-Mansour. Un film d'ailleurs si convenu, si sucré, qu'on se demande si le plus intéressant, outre son féminisme affiché, ça n'est pas simplement qu'une Saoudienne,
oui,
qui vit, il est vrai, à Los Angeles, ait choisi de s'intéresser à ce sujet. Mais ça, c'est sur le papier. Quand on voit le film, c'est vrai que j'étais étonné d'ailleurs de presque de l'indulgence, peut-être en raison de l'origine de la réalisatrice, de l'indulgence de la presse pour ce film, Pierre.
Bah c'est ça, parce que tout le monde n'ose pas dire c'est nul
nul.
Non, pas nul, mais totalement académique.
C'est convenu.
Non, mais académique, musique.
Ah, la musique est insupportable.
Insupportable. C'est même pas très joliment photographe. L'image est pas très belle. Et alors, le mec qui joue Shelley, il est très joli garçon, mais alors, il est absolument sans intérêt. Et comme Elle Fanning, qu'on aime bien, c'est une bonne comédienne, mais alors là, elle a que 3 expressions, et elle se met en colère, vraiment, quand elle se met en colère, c'est comme une petite adolescente américaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas du tout. Ça fait vraiment un film extrêmement décevant.
Eric.
Le premier film de cette réalisatrice mettait en scène une gamine qui voulait s'acheter une bicyclette.
Mais c'était pas mal dans mon souvenir.
C'était bien,
c'était bien, mais alors là, elle est tombée de vélo. Hein. C'est catastrophique. Non, mais on se demande. Elle a dû subir une opération, un truc. Elle a été clonée parce que tourner une j'allais dire une connerie pareille, mais parce que
elle n'est pas l'auteur du scénario. Hein.
Oui, mais c'est pas une excuse. Hein.
Non, je suis d'accord. Mais j'essaie de réajuster
alors,
un peu.
Là, dans ce film, Shelley, c'est Pete Doherty. Oui. C'est ridicule. Elle est Fanning, on a toujours l'impression qu'elle se demande où est le drugstore ouvert dans les
c'est
barrages.
Ça, c'est ça.
Et non, c'est.
Et puis sur la question essentielle, comment est-ce qu'elle s'est mise si jeune, à 18 ans, à écrire Frankenstein?
Ah oui, bah, ça, on c'est évacué pas, hein. Complètement. Mais c'est un film féministe, mais vraiment dans le sens bêta du terme.
Ah, ça serait une phrase.
Voilà.
Le courrier directement au Figaro. Hein. Moi, je ne veux pas en recevoir. Hein. Michel.
Oui, non, c'est vrai que c'est dans le circuit MeToo, incontestablement. C'est-à-dire que la thèse, c'est tout de même que la plupart des hommes sont des salopards. Par exemple, le personnage de Lord Byron est absolument grotesque, surjoué. Etc.
Donc, c'est José Garcia.
Byron n'était pas un personnage parfait, loin de là. Mais elle le ridiculise. Shelley aussi. Enfin, bref. Mais c'est une histoire classique, c'est-à-dire un pays comme l'Arabie Saoudite où il n'y a pas de cinéma, aucune femme n'a jamais tourné, il n'y a même pas de cinéma.
Mais il n'y a pas de salle de cinéma, il y a encore quelques années.
Il n'y a pas de salle de cinéma. Depuis 20 ans, il y a 30 ans, aucune salle de cinéma, tout est interdit.
Je ne crois pas qu'ils aient masqué la plume.
Et donc, cette jeune fille fait un petit film.
Le voile est la plume.
Un petit film.
Oh non.
Recourrier.
Directement au Figaro.
Si j'y suis encore.
Oui, avec cette blague-là, tu y es, je te rassure.
c'est pas dit.
Cette Haïfa Al-Mansour donc fait un petit film pas antipathique, mais tout le monde s'extasie parce que elle est d'Arabie Saoudite, elle est femme, elle est jeune, elle fait ses premières armes. Et puis ensuite, on se rend compte que faire un film hollywoodien n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'elle se casse complètement la figure. C'est-à-dire que le film effectivement est totalement académique. Il suffit de penser à Bright Star de Jane Campion sur Kix.
Voilà. Chef d'œuvre.
D'ailleurs, que le jury de l'époque n'avait pas non plus condamné. Il y a une constance.
Salaud jury.
Il y a une constance. Voilà. Donc, il suffit de penser une seconde à Bright Star pour voir tout ce qui manque à ce film.
Xavier.
Bon, il suffit de voir le film pour savoir qu'il est mauvais, de toute façon. C'est didactique, c'est pédagogique. On accumule.
C'est même pas pédagogique dans le bon sens du terme.
Parce qu'on accumule quand même les petites scènes initiatiques qui pourraient expliquer éventuellement pourquoi elle a eu l'idée d'écrire Frankenstein. C'est-à-dire qu'on a une petite scène traumatique dans un cimetière, on a une petite scène traumatique dans une église, on dirait du Mylène Farmer jusque-là.
Ça te plaît
alors. J'aime Mylène Farmer, pas les ersatz, hein, pas les mauvaises imitations. Mais alors, en revanche, dès qu'il y a un sujet qui fâche, parce que le roman de Frankenstein a quand même été considéré comme extrêmement blasphématoire et qu'il y a eu des procès derrière, alors ça, on n'en traite pas du tout. Et une fois de plus, il y a cette idée sous-jacente qu'en gros, derrière une femme, auteur, écrivain, artiste, il y a un homme. Et ben, ça m'énerve.
Eh bien, c'est Marie Shelley de Haïfa Al-Mansour. Personne, j'imagine, pour le défendre. Le monde est à toi, qui était à la quinzaine des réalisateurs. C'est le deuxième film de Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras, avec Karim Leclou, Isabelle Adjani, Oulaya Amamra, Vincent Cassel, François Damien, c'est même Philippe Catherine. Dans un rôle d'avocat. François, c'est donc Karim Leclou, qui est un petit dealer qui rêve de devenir le distributeur officiel au Maghreb des glaces Mr Freeze, dont vous le savez tous, Xavier raffole. Si vous voulez lui faire un cadeau, vous lui envoyez des glaces Mr Freeze.
Oui, mais elle refonde par courrier. Donc je n'ai que des enveloppes vides avec effectivement quelque chose. Non, je préfère qu'on me les offre en direct, bien glacées, bien raides, bien... Ah, c'est droit, enfin, je veux dire, Mr Freeze, excuse-moi, mais plus phallique que ça comme confiserie, hein.
Mais est-ce que j'ai dit quelque chose?
On n'a rien dit, hein.
Non, mais c'est pour ça, quoi.
On n'a rien dit.
Chose, mais moi, le Mr Freeze, courbé, ça m'intéresse pas.
C'est l'empreinte.
Qu'est-ce que j'ai encore dit, quoi?
Mais rien. Continue.
Là, on parlait de Mr Freeze, même pas du film. J'attends qu'on passe la parole. Je suis bien élevé.
Et comme sa mère, Dani, c'est donc Adjani qui est chef d'un gang de pickpocket qui se déguise en saoudienne pour voler des sacs dans les grands magasins, a dépensé toutes ses économies. Ben, il va devoir se refaire en récupérant une cargaison de coke en Espagne. Mais il faut compter aussi avec Lamia, son amour de jeunesse, deux Mohamed qui ont le doigt sur la gâchette et Henri, donc son ancien beau-père, tout juste sorti de prison. C'est donc Cassel. Est-ce qu'il y a pour l'instant un film sans Cassel, non, quasiment pas, qui lui voit des complots partout. On revient au complot. C'est totalement déjanté, c'est kitschissime, c'est assez Guerrici, avec une BO comme les aime Eric, qui va de Sardou à Balavoine en passant par Voulzy.
Et Toto.
Et oui, absolument. Toto. Et je t'ai lu dans le Figaro, toi tu es au bord de l'extase.
Ah ben, ça réveille par rapport à ce qu'on voit là. C'est vraiment un film clinquant, rutilant, qui est un condensé de tout ce qu'est la bêtise et la vulgarité contemporaine. Il y a une cruauté, un œil, d'une lucidité sur le monde qui est vraiment réjouissante. Là, c'est du Bertrand Blier matiné de Tarantino avec.
T'en fais pas un peu trop là, non?
Non, parce que vraiment le film est bien. Je l'ai vu deux fois aussi. Et je l'ai aimé les deux fois.
Il fait 1h30, hein.
Oui, mais...
1h34.
Ah non, mais... Moi, je crois que quand on voit tous les films deux fois, on peut plus regarder Le Poirier Sauvage, tu vois.
Ah bon?
Arrête de voir les films deux fois, parce que tu perds ton temps.
Non, mais il y a une violence.
Non, mais sa mère, il l'a vu qu'une fois.
Parce qu'il n'a pas eu le temps.
Non, mais Adjani est prodigieuse. Elle revient en disant, vous m'avez pas vu les cocos depuis des années, je vais vous en donner pour votre argent. Là, il y a une brochette, mais d'abrutis, comme on en voit rarement sur les écrans. Vincent Cassel, je comprends pas pourquoi vous avez été si cruel avec lui dans Fleuve Noir, à propos de Fleuve Noir, parce qu'il était épatant.
Tu l'as vu deux fois, Fleuve Noir?
Non.
Bon,
tu l'as vu, ça? Si, je l'ai vu deux fois.
Tu peux pas défendre Cassel.
Quand on le voit regarder une vidéo de Castoriadis, croire qu'il y a un complot qui est partout. Non, mais c'est un film réjouissant avec les grands ensembles dans la banlieue de Paris, les gratte-ciels à Benidorm, tous ces petits malfrats qui ne rêvent que d'une chose, acheter une villa avec une piscine où ils pourront tremper leur gros lard. C'est réjouissant.
Pierre, quelques mots sur ce film.
On m'avait dit tellement depuis la projection à Cannes, tous mes petits copains de Télérama m'avaient dit que c'était tellement, tellement bien que je l'ai rattrapé là. Moi, je suis un peu resté sur ma faim. Je trouve que Vincent Cassel est en effet assez drôle, surtout au début, le monologue, là, au début. Et puis, Karim Leclou est plutôt bien. Mais attends, moi, j'ai pensé, par exemple, à ce que fait en un quart d'heure Soderbergh quand il fait Logan Lucky, par exemple, avec comme ça des abrutis et tout ce qui peut arriver à des abrutis. Il y a une espèce de verve, de force. Là, au bout de... Je sais pas. Ou alors, j'étais de très mauvaise humeur, mais j'ai trouvé Adjani pas bonne du tout. Tout ça est caricatural. Un nouveau regard sur la banlieue, m'avait-on dit. Moi, je vois absolument pas le regard qu'il y a sur la banlieue. Je trouve ça peut-être agréable, mais très, très long, très, très surfait et pas très intéressant.
Michel ?
Moi, je trouve que c'est une bonne surprise parce que son premier film, Notre jour viendra, était extrêmement médiocre.
Et le début était pas mal.
Comment le début n'était pas mal.
Oui. Fois, oui. J'étais surpris de voir ce film, qui est un film de genre, mais oui. qui a un ton original, qui est un peu de comédie, un côté dérisoire, mais pas non plus versant comme on parle de Tarantino, qui joue sur le deuxième degré en permanence, pas du tout. Il y a des vrais personnages. Karim Leclou est tout à fait remarquable. Et moi, j'ai trouvé Adjani étonnante. C'est son meilleur rôle depuis très longtemps.
Ah, bah, c'est pas difficile, mais.
Et je trouve que le film est un scénario très travaillé, avec des tas de rebondissements. Je dis pas que c'est un grand film, je dirais pas du tout que c'est du Soderbergh ou du Tarantino, mais c'est dans le cadre du film de genre français, c'est un film plutôt réussi.
Mais comme dit Pierre, il était tellement, tellement surévalué à Cannes.
C'est un chef-d'œuvre absolu.
Peut-être à Cannes parce que les gens voient des films qui Xavier, sont pas drôles, alors ils ont vu un film
j'ai
un peu
divertissant. J'ai pas grand chose à rajouter, je suis d'accord avec Michel, je trouve qu'il rate sa fin, il la bâcle malheureusement,
Non, mais quand tu vas pas la raconter.
Non, j'arrive pas, mais cette fin à la Soderbergh, c'est des arnaqueurs qui sont arnaqués, tout ça ne fonctionne pas très bien. Mais on l'a deviné au bout de 3 secondes.
C'est ce que je dis toujours.
Arrêtez de prendre ta place est prise. Les spectateurs sont pas aussi bêtes que vous soyez.
Surtout quand on n'a pas vu le film.
Il y a une scène absolument formidable, effectivement, aux Galeries Lafayette, puisque le magasin est explicitement cité, d'arnaque, de vol à l'étalage.
Ne va pas Tom Cruise.
Qui est quand même assez réussi, qui est assez goulayante, avec Isabelle Adjani, effectivement, en princesse saoudienne. Et puis, il y a la concrétisation d'un acteur magnifique qu'on défend depuis des années, que le grand public ne connaît pas suffisamment, c'est Karim Leclou. C'est et il est magnifique, vraiment, de complexité, de nuance, de subtilité. C'est un vrai acteur, et je suis ravi de le voir dans un film comme ça.
Le Monde est à toi, Romain Gavras, une poignée de petites minutes pour évoquer, donc 10 ans après Neuilly, sa mère, de Gabriel Julien La Ferrière, Xavier. Donc on prend les mêmes, on recommence. Donc là, ils ont quitté la cité de Chalon-sur-Saône pour habiter chez sa tante. C'était le jeune Samy, tu te souviens, Daoud, donc qui lui fait de très brillantes études politiques. Tandis que la famille des Chazelles, ruinée, doit quitter Neuilly et se réfugier dans la cité Picasso de Nanterre, avec toujours Samy Seguir dans le rôle de Nipodalides, mais aussi Sophia Aram, un nombre hallucinant de guest stars, Balasco, De Maison, Le Mercier, Elise Moon, Gérard Miller,
Dupont-Moretti,
Jean-Jacques Bourdin,
très bien.
Il est drôle.
Arnaud Montebourg, Julien Drey et même notre copine Charline Vanhoenacker qui joue le rôle d'une juge. C'est une rafle, hein, là. T'as vu tout ce monde.
Bon, on a à peine le temps de les voir parce que le film est un montage tellement rapide, un dialogue.
C'est très très nerveux comme montage.
Oui, ça veut être tellement nerveux que c'est absolument soporifique. Et Arnaud Montebourg est très heureux de faire un film assez démagogique où tous les politiciens sont épouvantables.
Ils s'embêtent, ils vont du miel
maintenant. En particulier le futur maire de Nanterre qui a essayé de noyauter à peu près tous les partis politiques et qui se retrouve sur une liste socialiste et qui est élu maire. Donc le frondeur qu'est Montebourg a dû apprécier le film.
Xavier ?
C'est effectivement totalement raté. Ça veut évoquer énormément de sujets, le déterminisme social. Toutes les pannes d'ascenseur possibles, aussi bien dans les HLM qui sont désertés, que la panne de l'ascenseur social, puisque c'est le principe du personnage principal qui essaie de faire Sciences Po et tout ça. C'est un film qui évoque même l'homosexualité dans les banlieues et c'est consternant, parce que rien n'est traité, rien n'est écrit, tout est comme ça balancé dans un scénario sans enjeu, sans queue ni tête, on n'en a rien à faire, les acteurs sont mauvais, il n'y a pas de chef opérateur, c'est filmé au téléphone portable, c'est horriblement laid en plus en termes d'image, il n'y a pas de mise en scène. Sophia Aram s'en tire un tout petit peu, mais alors Valérie Le Mercier, catastrophique de caricature.
Était déjà comme ça dans le premier. Tu te rappelles, elle faisait que dire merde, bordel, tout le temps.
Le premier qui avait été un succès, mais colossal.
Et celui-ci a plutôt bien démarré, mais j'ai l'impression que le bouche à oreille ne lui est pas favorable. Ce qui signifie que le public est toujours moins bête qu'on espère qu'il le soit.
Enfin, je précise, c'est un film sans Isabelle Adjani. Eric ?
C'est encore une chose indigne. C'est à peine un cran au-dessus de cet horrible truc qui s'appelait Les Tuches. Mais après,
oui, donc,
hein,
donc il peut rêver à 4 millions de spectateurs.
Ouais, ouais. Bah, tant pis pour eux.
Il peut rêver à 4 millions de spectateurs.
Ah non, mais non, les tuches, c'est pire.
Ah oui, j'ai dit un petit cran au-dessus.
On peut pas aller au-dessus.
Oui, mais c'est un peu le même genre d'esprit.
Oui, c'est ça. C'est des magots.
C'est bâclé, des magots, bêtes. Le candidat du FN est arabe, et alors il se teint en blond. Sa fille s'appelle France. Alors moi, j'ai pensé à La Combe Lucien où le personnage d'Aurore Clément s'appelait France, avait une autre résonance. Et là, on est gêné pour Podalydès. Là, pour la peine, il devrait même être exclu de la Comédie Française.
Non mais Pierre, c'est nul, voilà. C'est des magots, ouais. Etc. La seule qui a de la chance, c'est Rachida Brakni, parce qu'elle était dans le premier épisode, elle était occupée ailleurs.
Elle a disparu.
Elle a disparu, elle était occupée ailleurs, et elle a bien fait, voilà.
Eh bien, c'était Neuilly, sa mère, ou du moins ce qu'il en reste. Le conseil de la fin de cette émission, eh bien, je vous laisse choisir. On va commencer avec Xavier.
Une spéciale Roger Corman, dont on ressort cette semaine The Intruder, qui est un film de 62. Alors, Roger Corman, on sait, c'est le pape de la série B, des films un peu bricolés, bout de ficelle. Il a fait un film sérieux dans sa vie. C'est sur le seul, d'ailleurs, sur lequel il a perdu de l'argent. Et c'est un film sur le racisme. C'est William Schaffner qui joue un suprémaciste blanc en 62, qui est contre les lois anti-ségrégation. Il veut absolument interdire l'arrivée des Noirs dans les écoles de l'État. Et c'est éminemment politique, éminemment contemporain, ça fait très très peur.
Et donc c'est un film en fait qu'il avait réalisé
en 62, au moment
et qui n'est jamais sorti.
Si, qui est sorti, mais qui est mal sorti. C'est une reprise qui a été un bit. Voilà, absolu. C'est vrai que Roger Corman, on a plutôt gardé La Petite Boutique des Horreurs ou quelques nanars comme ça. Et c'est un film sérieux, c'est un film grave, c'est un film en écho au monde d'aujourd'hui, à l'élection de Donald Trump, saisissant. C'est un film remarquablement filmé, remarquablement mis en scène, et qui est accompagné de la sortie d'un livre qui s'appelle Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, qui sont les mémoires de Roger Corman. Ah, des mémoires foisonnantes, drôles, pleines d'ironie. C'est-à-dire que le mec a inventé non seulement un cinéma fauché, mais un cinéma brillant, bourré d'idées, bourré d'inventivité. Puis le jour où il a fait un film sérieux, bon, bah, malheureusement le film est passé à la trappe, mais non, il existe encore aujourd'hui, et le voir en 2018 avec ce qui se passe depuis un an aux États-Unis fait terriblement froid dans le dos, dans la mesure où on se dit mais l'histoire se répète, la connerie ne cesse constamment de frapper aux portes de notre actualité, et le film est brillantissime et glaçant des fois.
Mais j'espère qu'il sera quand même distribué normalement en France, je dis ça parce que j'ai eu beaucoup de courriers cet été, on a conseillé beaucoup de rééditions, vous savez.
Alors c'est Carlotta qui le sort.
Et la plupart des films n'étaient pas, m'ont dit les auditeurs, n'étaient pas disponibles.
Mais
dans les
îles. Ce qui est vrai, mais il faut d'abord que Carlotta double tout le temps ses sorties sales par des sorties DVD remarquables avec des
copies restaurées. Donc on peut trouver aussi en DVD.
On trouvera incessamment sous peu. Voilà, ne vous inquiétez pas, Intruder, il faut absolument garder ça en tête parce que c'est un film salutaire.
Le conseil de Michel.
Alors, je vais être bref, mais je voudrais parler de plusieurs films. D'abord, un film allemand de Thomas Stuber qui s'appelle Une vase dans les allées, qui est un petit film un peu à la Hermano Olmi sur une histoire d'amour très modeste mais très touchante de deux dans un supermarché d'un homme qui est là pour ranger les bouteilles, etc. avec une jeune
fille. J'ai très envie de le voir, ça.
C'est un très joli film dont le Nouvel Observateur dit beaucoup de bien à juste titre. C'est un très très joli film qui était à Berlin en compétition.
Et il les range bien les bouteilles.
Et deux chefs-d'œuvre. Et deux,
non, il y a une graduation au début, c'est pas bien précis.
Non, c'est un film presque néo-réaliste, une histoire très modeste, un voleur de bicyclette, c'est aussi, si on le résume en deux lignes, c'est pas très intéressant. Et puis deux chefs-d'œuvre, tous les deux asiatiques, A Brighter Summer Day, 4 heures de Edward Yang, et Le Profond Désir des Dieux de Imamura, 3 heures, deux films, un japonais, un taïwanais, qui sont des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire du cinéma.
Le conseil d'Éric.
Ben, je voulais conseiller The Intruder ou à défaut Une valse dans les allées, donc je suis bien embêté, je vais aller revoir deux films une deuxième fois.
Alors tu vas aller revoir Le Poirier Sauvage d'abord. Hein?
Une troisième fois alors, ouais.
Le conseil de Pierre.
Alors la reprise d'un Ernst Lubitsch pas très connu, mais quand même, qui s'appelle Le Lieutenant Souriant, qui date de 31. Alors il y a Maurice Chevalier qui est un peu lourd, qui a un peu vieilli, mais...
Qu'est-ce qu'il fait Maurice Chevalier?
Il joue un militaire qui a le malheur d'adresser un clin d'œil à une princesse qui tombe raide dingue et qui le force à l'épouser alors qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Les deux femmes, c'est Myriam Hopkins et Claudette Colbert qui sont absolument parfaites. Alors il filme les portes, comme d'habitude, parce que c'était un spécialiste de filmer des portes qui s'ouvrent, les portes qui restent fermées. C'est d'un érotisme troublant et d'une amoralité totale. Deux ans après,
On n'oserait pas aujourd'hui faire ce film.
Et trois ans après, il allait faire Sérénade à trois, qui est vraiment, le titre est explicite, et qui est un de ses chefs-d'œuvre. Mais déjà, le Lieutenant Souriant est vraiment très, 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 très bien.
Eh bien, tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Michel Simon, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Eric Nehoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Charles Trenet, à la technique, je les remercie, Jean-Michel Bernot, Renaud Fluzin, Lidwin Caron ainsi que Lucas Derode. La réalisation était signée, orchestrée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 30 août à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour une seule émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parle de la rentrée littéraire à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.